VOA Afrique, les infos. À Washington.
Cher Robin Dorsil, qui vous remercie de votre fidélité. Nous aurons dans quelques minutes notre magazine hebdomadaire Sporama, préparé et présenté aujourd'hui par Bagassi Koura. En attendant, voici les principales nouvelles du monde. Les manifestants hostiles au président burundais Pierre Nkurunziza ont de nouveau défié la police ce lundi dans les rues de Bujumbura, mais également en province où au moins un protestataire a été tué par les tirs des policiers, un bilan fourni par l'AFP. Jacques Aristide.
Le drame s'est produit à Mugamba, dans la province de Bururi. C'est à 60 km au sud-est de la capitale. La police a ouvert le feu sur une centaine de manifestants, rapporte l'AFP. Fusillade qui a donc fait une victime, mais aussi deux blessés. L'incident intervient après un week-end de trêve, endeuillé par l'assassinat de l'opposant burundais Zedi Feruzi, une figure du mouvement actuel contre le pouvoir présidentiel. Après sa mort, la coordination anti-troisième mandat a suspendu sa participation à des négociations avec le gouvernement sous l'égide de l'ONU et de l'Union africaine, dialogue qui se limitait à des questions autour des manifestations, alors que le cœur du problème, la candidature de M. Nkurunziza à un troisième mandat, n'était pas encore abordée. Un diplomate a laissé entendre que seuls les chefs d'État des pays de la région, qui doivent se retrouver dans les prochains jours, pourraient être en mesure de débloquer la situation. En attendant, le bras de fer se poursuit entre manifestants et forces de l'ordre qui avaient pris position ce lundi dès l'aube dans et autour des habituels quartiers contestataires de Bujumbura pour empêcher tout rassemblement.
Lutte contre Boko Haram au Nigeria, des avions de chasse nigérians ont bombardé quatre villages occupés par la secte islamiste dans le nord-est du pays, près de la frontière camerounaise. C'est ce qu'indiquent des habitants en fuite et des parents des victimes cités par l'agence France-Presse. Il s'agirait des villages de Dougou, Jarawa, Malomaja et Moudou, situés dans l'état de Borno. Les bombardements de dimanche auraient duré 6 heures. Aucun bilan n'est disponible pour l'instant. Il est très peu probable que qui que ce soit ait survécu dans ces villages, au vu de l'intensité des bombardements, a estimé un témoin dans un village voisin. Ceux qui étaient gardés en otage ont certainement péri avec les islamistes, selon les habitants. Et c'est dans ce contexte que l'on apprend que 10 personnes ont été massacrées à la machette par des islamistes de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Un responsable local cité par l'AFP souligne que l'attaque a eu lieu vendredi matin dans le village reculé de Pambula Kwamda dans l'état de l'Adamawa. Les assaillants seraient arrivés dans le village très tôt le matin alors que les habitants dormaient encore et ils ont utilisé des machettes pour attaquer leurs victimes. Au Burkina Faso, l'exhumation du corps du président Thomas Sankara et de ses 12 compagnons assassinés en 1987 lors d'un coup d'État a commencé ce matin à Ouagadougou en présence des familles et de leurs avocats. Claire Morin-Gibourg a joint maître Ambroise Farama, l'un des avocats de la famille Sankara.
Depuis ce matin, effectivement, la procédure donc, d'exhumation est en cours. Et c'est une exhumation placée sous le sceau de la justice, donc la confidentialité judiciaire. Là, nous avons là les différents experts nationaux et internationaux qui sont là. Nous avons également la police scientifique et nous avons donc les familles, les représentants des différentes familles et les avocats des différentes familles qui sont présents aussi. Le grand public, lui, est maintenu hors du cimetière, un peu loin donc des travaux.
Qu'attendez-vous de cette exhumation, maître?
C'est d'abord de pouvoir identifier exactement les restes des différentes personnes qui se trouvent dans le temps, parce qu'il faut préciser qu'il ne s'agit pas de l'exhumation seulement de la tombe de Thomas Sankara, mais il s'agit de l'exhumation de tous les autres compagnons qui étaient à l'esprit. Et ensuite, l'exhumation devrait pouvoir permettre aux juges d'instruction d'avoir des éléments scientifiques sur les causes de la mort. Parce que vous vous souviendrez qu'à l'époque, il y avait donc un médecin militaire qui avait donc fait les certificats médicaux, les certificats de décès, attestant que Thomas Sankara, par exemple, était mort de mort naturelle. Mais nous attendons que les résultats de cette expertise puissent non seulement permettre de l'identifier, mais également pouvoir nous dire quelle était la cause probable de la mort.
Maître Ambroise Farama, l'un des avocats de la famille Sankara. L'Église catholique hausse le ton en République démocratique du Congo. Dans un message publié à l'occasion de la fête chrétienne de la Pentecôte, des évêques accusent les autorités de laisser pourrir la situation dans l'est du pays. Ils s'insurgent notamment contre la série de massacres commis depuis octobre dans la région de Beni, dans le nord Kivu, et ayant débordé jusque confins de la province orientale voisine. Conflit au Soudan du Sud, l'armée affirme avoir repris le plein contrôle de la ville stratégique de Malakal, capitale de l'état pétrolier du Haut-Nil. Les forces ennemies ont été complètement détruites, assure l'armée sud-soudanaise citée par l'AFP. plus sur cette guerre. Et il faut dire aussi que le président Salva Kiir et les rebelles de l'ex-vice-président Riek Machar, jusqu'à présent, n'ont pas pu trouver un terrain d'entente au Soudan du Sud. Fusillade dans une caserne de Tunis, un caporal de l'armée a tué lundi 7 de ses camarades avant d'être abattu. D'après l'AFP, les autorités tunisiennes privilégient la piste d'un acte isolé et non terroriste, le tueur ayant des problèmes familiaux et psychologiques.
VOA Afrique, en direct de Washington.
En Irak, le premier ministre Haider al-Abadi a déclaré que la ville de Ramadi sera reprise aux islamistes dans les prochains jours, non pas dans des semaines. Nathalie Barche.
Dans une interview avec la BBC, le dirigeant irakien a admis que les islamistes ont débordé les forces militaires dans un recul spectaculaire qui a incité dimanche le secrétaire américain à la défense, Ashton Carter, à questionner la volonté de l'Irak de vaincre le groupe État islamique. Mais M. al-Abadi a exprimé sa confiance dans la capacité de son pays à repousser la nouvelle ligne de front dans le conflit. Ce sera dans les prochains jours, je peux vous assurer, ils ont remporté cette bataille, cela ne veut pas dire qu'ils ont gagné, a-t-il affirmé en réponse à Ashton Carter, qui avait douté de la volonté du gouvernement irakien. La conseillère à la sécurité nationale américaine, Susan Rice, a fait écho aux préoccupations du secrétaire à la défense sur la chaîne CBS. Peu de temps après les déclarations des officiels américains, le président de la commission de la défense et de la sécurité du Parlement irakien, Hakim al-Zamili, a dit à Associated Press que les commentaires d'Ashton Carter sont irréalistes et sans fondement. Selon lui, les États-Unis essaient de rejeter la faute sur l'Irak après l'échec de Washington à fournir un bon équipement, des armes et un soutien aérien, a rétorqué M. Zamili.
La Turquie est d'accord en principe avec les États-Unis sur une protection aérienne pour les rebelles syriens qui sont en stage de formation afin de lutter contre le groupe État islamique. L'annonce a été faite aujourd'hui par le ministre turc des Affaires étrangères. Pendant ce temps, en Syrie, les forces gouvernementales ont mené au moins 15 frappes aériennes contre les combattants du groupe État islamique dans la ville historique de Palmyre. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme basé à Londres, les cibles incluaient un bâtiment des services de renseignement des djihadistes et un hôpital. Depuis la prise de Palmyre la semaine dernière, au moins 217 personnes ont été exécutées dans cette ville, y compris des enfants, des infirmières et des soldats syriens. Plus de 600 habitants ont été faits prisonniers. Au moins 430 personnes ont trouvé la mort en Inde dans une vague de chaleur atteignant jusqu'à 50 degrés centigrades. Précision Eddy Isango.
Ces chiffres sont provisoires car, selon les autorités indiennes, les bilans pourraient s'aggraver étant donné que le mercure tend à rester autour des 50 degrés Celsius. Les États du Telangana et de l'Andhra Pradesh, voisins de New Delhi, la capitale, sont les plus touchés. Des coupures d'électricité y sont fréquentes. Un haut responsable de la gestion des catastrophes naturelles de l'État d'Andhra Pradesh, P. Tulsi Rani, a dit à l'AFP que la majorité des victimes ont été exposées directement au soleil, avaient 50 ans ou plus et étaient issues de la classe ouvrière. Dans les Telangana, 188 personnes sont mortes, la plupart en milieu de semaine passée, mais les bilans, qui doit encore être confirmé, continue d'augmenter, a déclaré à l'AFP Devani, un responsable de l'unité de gestion de catastrophes de cet État. B.R. Mena, haut responsable de l'État de Telangana, a reconnu que la vague de chaleur actuelle était légèrement plus forte que d'habitude. Chaque année, la chaleur tue des centaines de personnes en Inde, principalement parmi les plus pauvres. Les autorités exhortent la population à ne pas travailler trop longtemps sous le soleil. Il est aussi recommandé de porter un chapeau, de boire beaucoup d'eau et de porter des vêtements en coton.
Le gouvernement grec a affiché ce lundi sa volonté de rembourser tous ses créanciers, dont le Fonds monétaire international, la semaine prochaine. Toutefois, Athènes n'a pas pu confirmer pouvoir le faire si le déblocage d'une tranche de prêt n'intervenait pas à temps. Au moins 3 morts et 400 maisons détruites, tel est le bilan des inondations provoquées par les fortes pluies qui se sont déversées ce week-end sur les États du Texas et de l'Oklahoma, ici aux États-Unis. Au Texas, plus de 2000 personnes ont dû évacuer leur résidence. Memorial Day, ce lundi ici aux États-Unis, la journée du souvenir, une journée fériée et chômée qui honore la mémoire des soldats tués au combat. Le président Barack Obama a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu au cimetière national d'Arlington. Nouvelles du monde et Sporama dans quelques instants. Ici chez Romain Orsil.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.